Chapitre 4. Petit chapitre contenant un petit incident. Mrs. Honora était une des personnes qui visitaient le plus fréquemment notre héros dans sa chambre. Si le lecteur se rappelle quelques expressions qu'elle s'était permises en parlant de Jones, il en pourra conclure qu'elle avait elle-même une affection particulière pour ce jeune homme. Mais il n'en était rien. Tom était beau et jeune, et Mrs. Honora aimait assez les hommes de cette espèce. Mais elle ne le distinguait pas des autres. Car depuis qu'elle avait été trompée dans l'amour qu'elle avait eu pour le laquais d'un certain gentilhomme, dont elle avait été lâchement abandonnée après une promesse de mariage, elle avait veillé avec tant de soin et d'exactitude sur les débris de son pauvre cœur qu'aucun homme ne put jamais parvenir depuis à en posséder un seul petit fragment. Elle voyait tous les beaux hommes avec cette égale bienveillance qu'un cœur sage et vertueux ressent pour tout ce qui est bon. On pouvait dire d'elle qu'elle aimait tous les hommes comme Socrate aimait le genre humain. Elle en préférait quelques-uns à cause de leur qualité physique, comme lui à cause de leur qualité morale. Mais elle ne portait jamais cette préférence assez loin pour troubler un seul moment la sérénité philosophique de son cœur. Le lendemain du jour où Jones eut à soutenir au-dedans de lui ce terrible combat que nous avons rapporté dans le chapitre précédent, Mrs. Honora entra dans sa chambre et, le trouvant seul, lui parla ainsi. « Dites-moi, monsieur, où croyez-vous que j'ai été ce matin? Je vous promets que vous ne le devineriez pas en 50 ans. Et quand vous le devineriez, je vous déclare qu'il m'est défendu de le dire. » « Bon, dit Jones, s'il y a quelque chose qu'il vous soit défendu de me dire, j'aurai la curiosité de vous le demander. » Et je suis sûr que vous ne serez pas assez barbare pour me refuser. Je ne vois pas, en effet, s'écria-t-elle, pourquoi je vous refuserais dans aucun cas, surtout pour le fait dont il s'agit, car sûrement vous n'en parlerez à personne. Quant au fait dont il s'agit, quand vous sauriez où j'ai été, si vous ignoriez pourquoi j'y ai été, cela ne vous servirait pas à grand-chose. Pour moi, je ne vois pas pourquoi l'on en ferait un secret, car sûrement c'est bien la meilleure dame du monde. À ces mots, Jones insista avec chaleur pour être mis dans le secret et promit en honneur de ne pas le divulguer. Elle continua donc ainsi. « Puisque vous voulez le savoir, monsieur, ma jeune maîtresse m'a envoyé chez Molly Seagrim, m'informer si elle n'avait besoin de rien. Sûrement, je ne me souciais guère d'y aller, mais il faut que les domestiques fassent ce qu'on leur ordonne. Comment avez-vous pu vous abaisser à ce point, monsieur Jones ? Ma maîtresse m'a donc ordonné d'y aller et de lui porter un peu de linge et quelques autres choses. Elle est trop bonne, en vérité. Il vaudrait mieux envoyer de telles malheureuses à Bridewell. Je dis à ma maîtresse, « Madame, lui dis-je, Madame encourage la paresse. » « Et quoi, ma Sophie a été assez bonne ?» s'écria Jones. « Ma Sophie, oui, fort bien sur ma parole, » répondit Honora. « Ah, si vous saviez tout. En vérité, si j'étais Monsieur Jones, je lèverai les yeux plus haut que sur une coquine comme Molly Seagrim. Qu'entendez-vous par ces mots, si je savais tout ? S'écria Jones. J'entends ce que j'entends, dit Honora. Ne vous souvenez-vous pas d'avoir mis une fois les mains dans le manchon de ma maîtresse ? Eh bien, je vous promets que je trouverai encore dans le fond de mon cœur quelque chose à vous dire, si j'étais sûr que cela ne dût jamais parvenir à ses oreilles. Jones lui en fit les protestations les plus solennelles. Et Honora continua ainsi, « Eh bien, sûrement, ma maîtresse m'avait donné ce manchon. Et après, quand elle a eu appris ce que vous aviez fait, vous lui aviez donc dit ce que j'avais fait, interrompit Jones. « Sans doute, répondit-elle, et vous n'avez pas besoin d'en être fâché. 1000 autres auraient donné tout ce qu'ils ont de plus cher au monde pour que je le dise à ma maîtresse, s'ils avaient pu savoir, car sûrement le plus grand seigneur de la terre aurait le droit d'être vain. Mais sûrement, j'ai une grande envie de ne pas vous le dire. » Jones redoubla ses instances et obtint d'elle qu'elle continuerait. « Il faut donc que vous sachiez, monsieur, que ma maîtresse m'avait donné ce manchon. Mais un jour ou deux après que je lui eus conté ce que vous aviez fait, elle se plaignit de son nouveau manchon, et certainement c'est le plus beau qu'on ait jamais vu. « Honora, me dit-elle, ce manchon m'est odieux. Il est beaucoup trop gros pour moi, je ne puis le porter. » Jusqu'à ce que j'en rachète un autre, rendez-moi le vieux que je vous ai donné, et prenez celui-ci en place. Car c'est une excellente dame qui ne voudrait pas reprendre une chose qu'elle a donnée, je vous assure. Ainsi donc, j'ai été chercher le vieux que je lui ai rapporté, et je crois qu'elle le porte presque toujours depuis. Et je garantirais bien qu'elle l'a baisé plus d'une fois, quand personne ne la voit. » La conversation fut interrompue par M. Weston lui-même, qui venait inviter Jones à se rendre avec lui au salon de musique, où le pauvre jeune homme le suivit, tout pâle et tout tremblant. M. Weston s'en aperçut, mais voyant Mrs. Honora avec lui, il en tira une injuste conséquence. Et après avoir lâché contre Jones un gros juron, moitié gai, moitié sérieux, il lui dit d'aller chasser hors de chez lui et de ne pas prendre de gibier dans sa garenne. Sophie parut ce soir-là plus belle qu'à l'ordinaire, et l'on peut croire que l'œil de Jones avait quelque raison pour lui trouver plus de charmes encore, en voyant qu'elle avait, en jouant du clavecin, le bras droit passé dans ce même manchon dont nous avons parlé. Elle jouait un des airs favoris de son père, qui était appuyé sur le dos de sa chaise, quand le manchon glissa jusque sur ses doigts, et l'arrêta tout à coup, ce qui fâcha M. Weston au point qu'il le lui arracha et le jeta au feu en jurant. Sophie se leva précipitamment et le retira des flammes avec le plus vif empressement. Cet incident pourra paraître de peu de conséquence à un grand nombre de nos lecteurs. Cependant, tout léger qu'il était, il produisit un effet si violent sur le pauvre Jones que nous avons cru de notre devoir de le rapporter. Il faut convenir qu'il y a beaucoup de petites circonstances trop souvent omises par les historiens sans jugement, et d'où naissent des événements de la plus haute importance. Car on peut considérer le monde comme une vaste machine dont les grandes roues sont mises en mouvement par les plus petites, entre lesquelles il s'en trouve de presque imperceptible aux yeux du commun des hommes. Ainsi, ce que n'avait pu faire, et tous les charmes de l'incomparable Sophie et sa beauté brillante, et la douce langueur de ses yeux, et l'harmonie de sa voix, et la grâce de sa personne, et tout son esprit, toute sa gaieté, et la supériorité de son âme, et la simplicité de son caractère, enfin, toutes ces admirables qualités, ce petit incident du manchon le produisit en un instant. Le cœur du pauvre Tom fut soumis et enchaîné pour jamais. C'est ainsi que le poète latin dit élégamment, en parlant de Troie, « Capti quae dolis lacrimis quae coactis, quos neque tilides nec lariceus Achilles, non anni domuero decem, non mille carene. » Ainsi furent vaincus par la ruse et les larmes ceux que ne purent vaincre avec mille vaisseaux, Achille, Diomède et 10 ans de travaux. La citadelle du cœur de Jones fut donc enlevée par surprise. Toutes ces considérations d'honneur et de prudence que notre héros venait de placer avec tant de sagesse comme des sentinelles pour garder les avenues de son cœur, quittèrent leur poste en fuyant, et le dieu d'amour y entra en triomphe. Chapitre 5. Très long chapitre contenant un événement de la plus grande importance. Mais quoique ce dieu vainqueur chassa aisément du cœur de Jones ses ennemis reconnus, il trouva plus de difficulté à supplanter la garnison que lui-même y avait placée. Pour parler sans allégorie, l'inquiétude de ce que la pauvre Molly allait devenir agitait et troublait extrêmement le cœur de cet excellent jeune homme. Le mérite supérieur de Sophie éclipsait totalement, ou plutôt anéantissait toutes les beautés de cette pauvre fille. Mais la pitié et non le mépris succéda à l'amour. Il était persuadé que Molly avait placé toutes ses affections et tout l'espoir de son bonheur dans lui seul, et il savait qu'elle y était suffisamment fondée par toutes les marques de tendresse qu'il lui avait prodiguées. Il avait cherché à l'en convaincre par tous les moyens possibles. De son côté, elle l'avait assuré qu'elle croyait à sa promesse et lui avait déclaré, avec le serment le plus solennel, qu'il dépendait de lui, soit en l'accomplissant, soit en y manquant, d'en faire la plus heureuse ou la plus misérable des femmes. Il ne pouvait supporter un seul moment la pensée de causer, à ce degré, le malheur d'une créature humaine, et considérait cette pauvre fille comme lui ayant sacrifié le peu qu'elle avait en son pouvoir, comme ayant été en même temps la victime et l'objet de son plaisir, et comme soupirant et languissant pour lui peut-être au moment même. « Et quoi ?» se disait-il. « Ma convalescence pour laquelle elle a fait tant de vœux si ardents, ma présence qu'elle attend chaque jour avec tant d'empressement, au lieu de lui procurer cette joie dont elle s'est flattée, la jetterait à la fois dans la misère et dans le désespoir? Serais-je assez méprisable pour cela? Mais quand le génie de la pauvre Molly semblait triomphant, l'amour que Sophie avait pour lui, et dont il ne doutait plus, s'emparait de son cœur avec violence et renversait tous les obstacles. À la fin, une idée nouvelle se présenta à lui. Ce fut qu'il pourrait s'acquitter d'une autre manière avec Molly, par exemple en lui donnant une somme d'argent. Il désespérait cependant qu'elle l'acceptât, quand il se rappelait les assurances fortes et réitérées qu'il en avait reçues, que le monde mis en balance avec lui ne la dédommagerait pas de sa perte. Néanmoins, son extrême pauvreté, et surtout son insigne vanité, dont nous avons déjà dit un mot au lecteur, lui donnait quelque peu d'espérance que, nonobstant toute sa tendresse mille fois déclarée, elle pourrait être amenée par le temps à se contenter d'une fortune supérieure à son attente, et qui pourrait flatter sa vanité en la mettant au-dessus de ses égales. Il résolut, en conséquence, de ne pas différer à lui en faire la proposition. Un jour donc, que son bras était assez bien rétabli pour qu'il pût marcher aisément, en le portant en écharpe, il s'échappa tandis que M. Weston était à la chasse et alla voir Molly. Elle n'était point à la maison, à ce que lui dirent sa mère et ses sœurs, qu'il trouva prenant le thé. Mais un moment après, sa sœur aînée lui apprit, avec un sourire malin, qu'elle était en haut dans son lit. Tom ne parut pas étonné de l'état où il supposait que se trouvait sa maîtresse, et monta aussitôt l'échelle qui conduisait à sa chambre. Mais quand il fut en haut, il trouva, à sa grande surprise, la porte fermée, et ne put de longtemps obtenir aucune réponse. Car Molly, comme elle l'en informa depuis, dormait alors profondément. On a remarqué que l'excès de la joie et l'excès du chagrin produisent des effets absolument semblables, et que quand l'une ou l'autre nous arrive par surprise, il s'ensuit ordinairement un tel trouble, un tel dérangement dans notre esprit, que nous en perdons souvent l'usage de toutes nos facultés. Il ne faut donc pas s'étonner si la visite inattendue de M. Jones produisit un effet si violent sur Molly et la troubla au point que pendant quelques minutes, elle fut incapable d'exprimer le ravissement que le lecteur suppose qu'elle ressentit en cette occasion. Quant à Jones, il était si complètement charmé et comme enchanté de la présence de sa bien-aimée, qu'il oublia pour un moment Sophie et par conséquent le principal motif de sa visite. Il ne tarda pourtant pas à se le rappeler, et après les premiers transports, il trouva par degrés les moyens de lui parler des funestes conséquences qui devaient suivre leur amour, si M. Allworthy, qui lui avait sévèrement défendu de la revoir, apprenait qu'il n'avait pas rompu tout commerce avec elle. Une telle découverte, que ses ennemis lui donnaient trop de raisons de regarder comme inévitable, le perdrait infailliblement et la perdrait elle-même. Puisque leur cruelle destinée avait résolu de les désunir, il lui conseillait de se résigner à son sort et lui faisait le serment qu'il saisirait pendant tout le cours de sa vie toutes les occasions de lui prouver la sincérité de son affection, en prenant soin d'elle beaucoup au-delà de son attente, ou même de ses désirs, si cela était un jour en son pouvoir. Il conclut enfin en lui faisant espérer qu'elle trouverait bientôt un mari qui la rendrait beaucoup plus heureuse qu'elle ne pourrait l'être en menant une vie honteuse avec lui. Molly garda le silence pendant quelques moments, puis elle ne tarda pas à fondre en larmes et à l'accabler de reproches. « Et c'est là, comme vous m'aimez, s'écria-t-elle, vous m'abandonnez de cette manière après m'avoir perdue. Quand je vous disais que tous les hommes étaient également faux et perfides, qu'ils étaient rassasiés de nous aussitôt qu'ils avaient satisfait leurs désirs criminels. Combien de fois m'avez-vous juré de ne jamais m'abandonner? Et après tout cela, pouvez-vous être parjure à ce point? Que m'importe toute la richesse du monde sans vous? Maintenant que vous avez obtenu mon cœur, que vous êtes sûr de le posséder, que me parlez-vous d'un autre homme? Je n'en puis aimer un autre tant que je vivrai. Tous les autres hommes ne sont rien pour moi. Quand le plus riche gentilhomme du comté se présenterait pour m'épouser demain, je le refuserais. Non, je haïrais et je mépriserais toute ma vie votre sexe entier à cause de vous. » Elle allait continuer sur ce ton quand un accident arrêta sa langue qui n'avait pas encore probablement fourni la moitié de sa carrière. La chambre, ou plutôt le galetas où couchait Molly au premier étage, c'est-à-dire tout en haut de la maison, était de biais dans tous les sens et ressemblait au grand delta des Grecs. Le lecteur s'en formera peut-être mieux l'idée quand il saura qu'on ne pouvait s'y tenir debout que tout à fait au milieu. Or, comme cette chambre n'avait pas de cabinet, Molly, pour suppléer à cet inconvénient, avait cloué une vieille couverture contre les solives du toit, ce qui formait un petit enfoncement où ses plus beaux habits, tels que les restes de cette vieille robe dont nous avons parlé, quelques bonnets et d'autres hardes qu'elle avait achetés depuis peu, étaient accrochés et à l'abri de la poussière. Ce petit lieu fermé faisait exactement face au pied du lit, auquel la couverture était attachée de si près qu'elle suppléait, en quelque sorte, au rideau qui y manquait. Soit que Molly, dans un de ses mouvements de colère, eût poussé trop violemment cette couverture avec ses pieds, soit que Jones l'eût touché lui-même sans y faire attention, soit enfin que les clous et les épingles qui l'attachaient eussent manqué tous ensemble, comme Molly prononçait ces derniers mots, la malheureuse couverture se détacha tout d'un coup et découvrit, puis-je l'écrire sans honte, et pourra-t-on le lire sans douleur, parmi tous ces ustensiles de femme, le philosophe Square, dans une posture aussi risible qu'on puisse l'imaginer, car le lieu ne lui permettait pas de se tenir debout. Cette posture ressemblait beaucoup à celle d'un soldat qui a le col et les talons liés ensemble, ou plutôt à l'attitude dans laquelle on voit souvent dans les rues les plus fréquentées de Londres des hommes que l'on ne punit pas, mais que l'on devrait punir pour cette indécence. Il avait sur la tête un bonnet de nuit appartenant à Molly, et ses deux grands yeux, au moment où la couverture tomba, se trouvèrent fixés directement sur Tom Jones. De sorte que, joignant l'idée de la philosophie à la figure que l'on voyait, il aurait été extrêmement difficile au spectateur le plus maître de lui de s'empêcher de rire aux éclats. Je ne doute point que la surprise du lecteur ne soit, en ce moment, égale à celle de Jones, d'autant plus que les soupçons que doit faire naître la vue de cet homme grave et réservé dans un tel lieu pourront paraître peu d'accord avec le caractère qu'il a conservé jusqu'ici. Mais, à vrai dire, cette inconséquence est plutôt imaginaire que réelle. Les philosophes sont de chair aussi bien que les autres créatures humaines. Et quelque sublime, quelque raffinée que soit leur théorie, une petite faiblesse pratique est un accident qui leur est aussi commun qu'aux autres mortels. La différence entre eux, comme nous l'avons déjà fait entendre, ne consiste donc réellement que dans la théorie, et point du tout dans la pratique. Car, quoique ces hommes sublimes se croient beaucoup meilleurs et plus sages que les autres, ils agissent toujours exactement comme eux. Ils savent très bien qu'il faut vaincre ses désirs et ses passions, mépriser également la douleur et le plaisir, et cette science bientôt acquise leur procure des contemplations délicieuses. Mais la pratique leur donnerait trop de fatigue et de tourments. Il en résulte que la même sagesse qui les instruit de ces grands principes leur enseigne aussi à s'en écarter. M. Square s'était trouvé à l'église le même dimanche où, comme le lecteur peut s'en souvenir, la présence de Molly, parée de sa robe, causa tant de troubles. Il la remarqua alors pour la première fois, et fut si charmé de sa beauté qu'il engagea le soir même ses deux élèves à changer le plan de leur promenade afin de pouvoir passer près de l'habitation de Molly et d'obtenir par ce moyen une seconde occasion de la voir. Comme il ne dit alors cette raison à personne, nous n'avions pas cru convenable d'en informer le lecteur. Le danger et la difficulté étaient deux particularités qui, dans l'opinion de M. Square, constituaient l'inconvenance des choses. Or, la difficulté qu'il craignait de trouver à séduire cette jeune fille, et le danger d'être découvert, que son caractère connu rendait plus grand encore, l'en dissuadèrent avec tant de force qu'il n'eut probablement d'abord d'autre intention que de se nourrir des idées agréables que fait naître en nous la vue de la beauté, et qui servent de délassement aux profondes méditations des hommes les plus graves. Voilà pourquoi ils gardent si soigneusement certains livres et certains tableaux dans les lieux les plus cachés de leur cabinet. Voilà pourquoi certaines parties de la philosophie naturelle font si souvent le sujet de leurs conversations. Mais un ou deux jours après, le philosophe ayant appris que la forteresse de la vertu de Molly s'était déjà rendue, il commença à donner plus de latitude à ses désirs. Son appétit n'était pas de cette nature délicate qui ne peut manger d'une friandise parce qu'un autre en a goûté. En un mot, il en aima mieux la jeune fille pour avoir perdu cette chasteté qui, si elle l'avait eue, aurait été un obstacle à ses plaisirs. Il tenta le succès et il y parvint. Le lecteur se trompe s'il pense que Molly donna à Square la préférence sur son plus jeune amant. Au contraire, si elle avait été obligée de n'avoir que l'un d'eux, Tom aurait sans doute été préféré. Ce n'était pas seulement la considération que deux valent mieux qu'un, quoiqu'elle eût bien son poids, à laquelle M. Square dut son succès. L'absence de Jones, causée par sa maladie, était une circonstance malheureuse, et dans cet intervalle, quelques présents du philosophe adoucirent et gagnèrent tellement le cœur de la jeune fille qu'elle ne put résister à la première occasion favorable, et que Square triompha des pauvres restes de vertu qu'elle conservait encore. Il y avait environ 15 jours qu'il avait triomphé, quand Jones fit à sa maîtresse la visite dont nous avons parlé, au moment qu'elle et Square étaient couchés ensemble. Ce fut la véritable cause pour laquelle la mère avait dit qu'elle était sortie, car comme la vieille femme partageait les profits de la prostitution de sa fille, elle l'encourageait et la protégeait de tout son pouvoir. Mais telles étaient la haine et l'envie que lui portait sa sœur aînée, que, quoiqu'elle eût aussi une part du profit, elle y aurait volontiers renoncé pour le plaisir de perdre sa sœur et de ruiner son commerce. C'est là ce qu'il lui fit dire à Jones qu'elle était dans son lit, espérant qu'il la trouverait entre les bras de Square, ce que néanmoins Molly trouva le moyen d'empêcher en fermant la porte en dedans, pour avoir le temps de cacher son amant derrière cette tapisserie où il fut si malheureusement découvert. À la vue de Square, Molly se cacha précipitamment sous sa couverture, s'écria qu'elle était perdue et s'abandonna au désespoir. Cette pauvre fille, encore novice dans son petit commerce, n'avait pas atteint cette perfection d'effronterie qui sert si bien les dames du grand monde en de semblables extrémités, et leur fournit toujours une excuse prête ou l'impudence qui permet de s'en passer, tandis que leur mari, par amour du repos ou pour éviter de perdre leur réputation, et souvent par la crainte du galant qui, comme M. Constant dans la comédie, porte une épée, se contente de fermer les yeux et de taire leur déshonneur. Molly, au contraire, fut réduite au silence par l'apparition de Square, et abandonna ingénument une cause qu'elle avait jusqu'alors plaidée avec tant de larmes, avec des protestations si fortes et si solennelles, de l'amour le plus pur et de la constance la plus inviolable. Quant au galant, qui s'était trouvé derrière la tapisserie, sa consternation n'était pas moins grande. Il resta quelque temps immobile, ne sachant que dire ni où porter les yeux. Jones, quoique peut-être le plus étonné des trois, retrouva le premier la parole, et sortant aussitôt de la situation pénible où Molly l'avait jeté par ses reproches, se mit à éclater de rire. Puis, saluant M. Square, il s'avança vers lui, le prit par la main, et l'aida à sortir de son étroite et incommode prison. Square, étant parvenu au milieu de la chambre, seul endroit où il put se tenir debout, regarda Jones d'un air grave et lui dit « Je vois, monsieur, que cette découverte vous fait un grand plaisir et que vous jouissez d'avance de celui que vous vous promettez de m'exposer à une honte publique. Mais si vous voulez considérer le fait avec impartialité, vous verrez que vous êtes le seul à blâmer ici. Je ne suis point coupable d'avoir corrompu l'innocence. Je n'ai rien fait de condamnable aux yeux de ceux qui jugent d'une action par les règles de la justice. » La convenance provient de la nature des choses, et non des coutumes, des formalités et des lois de police. Rien n'est, à dire vrai, inconvenant que ce qui n'est pas naturel. « Fort bien raisonné, mon vieux garçon, » répondit Jones. « Mais pourquoi penses-tu que je désire t'exposer à une honte publique ? Je te promets que je n'ai jamais eu de ma vie plus de plaisir à te voir. Et, à moins que tu n'aies toi-même le projet de divulguer cette aventure, tu peux compter de ma part sur le plus profond secret. » « C'est que, répliqua Square, je ne voudrais pas, Monsieur Jones, que l'on crût que je fais trop peu de cas de ma réputation. La bonne réputation est une espèce de calonne, ou beau moral, qu'il ne convient aucunement de négliger. De plus, tuer sa propre réputation est une sorte de suicide, le plus odieux et le plus détestable de tous les crimes. Je vous prie donc de vouloir bien cacher mes infirmités, car je puis en avoir, puisque nul homme n'est absolument parfait, et je vous promets que je ne me trahirai pas moi-même. Il y a des choses qu'il convient de faire, et dont il ne convient pas de se vanter, car les jugements du monde sont si pervers que ce qui est dans la vérité non seulement innocent, mais bien digne d'éloge, devient trop souvent le sujet de la censure publique. Fort bien, s'écria Jones. Que peut-il y avoir de plus innocent que de se laisser aller à ses appétits naturels? Qu'y a-t-il de plus louable que de travailler à la propagation de son espèce? À parler vrai, répondit Square, telle a toujours été mon opinion. Et cependant, dit Jones, vous étiez d'une opinion toute différente lorsqu'on découvrit ma liaison avec cette jeune fille. Je dois avouer, dit Square, que le fait m'ayant été malicieusement présenté par cet odieux Thwackum, j'ai pu vous avoir condamné d'avoir corrompu l'innocence. Ce fut cela, monsieur, ce fut cela, rien que cela. Car vous devez savoir, monsieur Jones, en considérant les convenances, que les plus petites circonstances, monsieur, les plus petites circonstances produisent de grandes différences. Fort bien, s'écria Jones, tout ce qu'il vous plaira. Mais comme je vous l'ai promis, ce sera votre faute si vous entendez jamais parler de cette aventure. Conduisez-vous comme il faut avec cette fille, et je n'en ouvrirai la bouche à personne. Quant à vous, Molly, demeurez fidèle à votre ami, et non seulement je vous pardonnerai l'infidélité que vous m'avez faite, mais encore je vous ferai tout le bien que je pourrai. » Et disant ces mots, il prit congé de la compagnie, et, se laissant glisser au bas de l'échelle, il disparut. Square se réjouit en voyant que cette aventure n'aurait probablement aucune suite fâcheuse. Quant à Molly, aussitôt qu'elle se fut remise de sa confusion, elle reprocha à Square d'avoir été la cause de la perte qu'elle venait de faire. Mais le philosophe trouva le moyen d'adoucir sa colère, tant par ses caresses qu'en tirant de sa bourse un petit remède d'une efficacité merveilleuse pour purger toutes les mauvaises humeurs de l'esprit et lui rendre sa première sérénité. Molly s'en trouva bien, donna 1000 marks de tendresse à son nouvel amant, tourna tout ce qu'elle avait dit à Jones et Jones lui-même en ridicule, et protesta que, quoiqu'il eût autrefois possédé sa personne, nul autre que Square n'avait jamais possédé son cœur.